Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8.
Cristal Delfos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième émission de Microcité qui n'est pas en direct. Pour cette fois, vous l'aurez remarqué, il s'en est passé des choses après 2 semaines d'absence. Nous n'avons pas échappé au reconfinement comme chacun, pas de studio pour nous, donc cette émission est enregistrée un jour avant sa diffusion. Cette semaine, l'équipe de Microcité n'a pas chômé et vous a préparé un programme spécial. Dans cette émission, Zoom sur le confinement, 2e édition. Dans quelle situation se trouve-t-on 6 mois après le premier? Des choses ont changé, d'autres non. Comment les commerçants qui ont dû une nouvelle fois tirer le rideau essaient de s'en sortir? Comment vivons-nous, nous tous, cette situation? On est venu à votre rencontre pour répondre à ces questions. Et puis enfin, démission, direction Osgore, les pieds dans l'eau. L'ambiance est à la baignade pour les surfeurs. Lucille Bess est allée à la rencontre de ceux qui bravent le confinement pour continuer à glisser sur les vagues. Vous êtes bien à l'écoute de Microcité. On est ensemble pour les 30 prochaines minutes. On attaque cette émission avec un point sur l'actualité de la semaine. Mathilde Cariou, on peut le dire, ces derniers jours ont été marqués par la situation sanitaire d'une part et l'élection présidentielle américaine d'autre part.
Et oui, Cristal, le sujet du jour, c'est évidemment l'élection présidentielle aux États-Unis. Le monde entier a désormais les yeux rivés sur le Nevada et la Pennsylvanie. Le dépouillement devrait s'achever dans la journée, on y revient dans quelques instants. L'autre préoccupation du moment, c'est bien entendu le Covid. Nous irons faire un tour du côté des hôpitaux et des pharmacies qui ne vont pas tarder de recevoir des nouveaux tests. Et enfin, Lucille Bess est partie voir comment ça se passe pour les supermarchés qui ont dû fermer leurs rayons non essentiels depuis mercredi. C'était une semaine riche en suspense dans les urnes aux États-Unis. Le président s'est exprimé la nuit dernière pour annoncer une nouvelle fois sa victoire, affirmant « si l'on compte les votes légaux, j'ai largement gagné ». Mais lors de son discours, certains médias ont tout simplement coupé le président Corentin Bémol.
Et c'est arrivé cette nuit sur MSNBC, une des plus grandes chaînes d'info des States, 38 secondes après la prise de parole de Trump.
Iowa, Indiana, Ohio.
Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the president.
Deux autres grandes chaînes américaines ont coupé l'allocution en s'empressant de démentir les propos du président. Ils ont rappelé que pour l'heure, aucune preuve de fraude n'a été apportée. Et même Fox News, la chaîne qui roule d'habitude pour Trump, s'est désolidarisée du candidat républicain. Le présentateur star de la chaîne Chris Wallace avait accusé Trump de craquer une allumette sur une situation inflammable, un sentiment que partagent même des membres du parti républicain. Mitt Romney, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2012, fustige les propos de Trump et demande la poursuite des dépouillements. Bonne ambiance au pays de l'oncle Sam.
Après l'Irlande et la France, c'est au tour de la Grèce et l'Angleterre de se reconfiner. Le Premier ministre anglais Boris Johnson promet que ce second confinement ne durera qu'un mois, jusqu'au 2 décembre prochain. Rappelons que le Royaume-Uni reste le pays le plus endeuillé d'Europe, avec plus de 48 000 décès liés au coronavirus depuis le début de la pandémie. En Italie, ce n'est pas un confinement général, mais un couvre-feu de 22h à 5h qui entre en vigueur aujourd'hui et jusqu'au 3 décembre. De nouvelles zones rouges ont cependant été déclarées en Lombardie et dans le Piémont. Ces régions seront donc de nouveau confinées. Et en France, 4000 malades du Covid sont actuellement en réanimation ou en soins intensifs. Les hôpitaux arrivent à saturation. Une infirmière redoute que les soignants ne soient obligés de choisir quel patient sauver dans les prochaines semaines.
De toute façon, ils ont appris de la première vague que certaines personnes, ça ne servait à rien de les intuber parce qu'ils n'allaient pas s'en remettre. Ils allaient rester un mois dans le coma, ils n'allaient pas se réveiller. Donc, ils ont appris. À certaines personnes, ils ne proposent pas l'intubation. J'ai l'impression qu'on a commencé à trier encore un peu plus et peut-être bien qu'il va falloir continuer. Je me dis que le pire est devant nous.
Alors que les hôpitaux se remplissent, les pharmacies s'apprêtent à recevoir les nouveaux tests Covid, gratuits et sans ordonnance. Ces tests appelés antigéniques sont progressivement mis en place depuis 7 semaines. Moins fiable que les PCR, mais plus rapide, comptez 15 à 20 minutes contre plus de 24 heures pour les résultats. Ils séduisent de nombreux pharmaciens, dont Emmanuel Scheftel, qui travaille dans un village alsacien.
Ce ne sera pas des tests au bout du doigt, c'est un prélèvement nasopharyngé, donc ça demande un peu plus de technique Et comme nous ne sommes pas habitués à le faire, il faut qu'on fasse une petite formation. Je compte le faire à partir de la semaine prochaine. On a déjà des demandes pour des cas contacts surtout, en fait. Et je compte le faire plutôt dans la cour, donc à l'extérieur pour éviter de mélanger, on va dire, les personnes qui sont susceptibles d'avoir le Covid et les personnes saines.
Toutes les pharmacies ne proposeront pas de tests. Selon les syndicats, la moitié d'entre elles seront équipées d'ici la fin de la semaine. Mais le mieux reste d'appeler avant de se déplacer. Les lycéens de retour à la maison. Le ministre de l'Éducation a annoncé hier soir le renforcement des mesures sanitaires dans les lycées. Jusqu'aux vacances de Noël, les élèves devront suivre la moitié des cours à distance. Les épreuves de contrôle continu en première et terminale sont quant à elles annulées. Premier jour des nouvelles restrictions mises en place à Paris. La maire Anne Hidalgo annonçait hier matin la fermeture de certains établissements à partir de 22h. Le but est de limiter les regroupements dans les rues de la capitale et ça concerne principalement les épiceries et la restauration à emporter. Toujours sur les commerces, le décret sur la fermeture des rayons jugés non essentiels dans les grandes surfaces est paru mercredi. Le gouvernement entend ainsi répondre à la grogne des petits commerçants forcés de fermer leurs portes pendant le confinement. Une décision que les consommateurs ont du mal à comprendre, Lucille Bess.
Dans l'Intermarché d'Hossegor ce matin, les clients observent un drôle de spectacle. Plusieurs rayons sont bloqués, recouverts de bâches en plastique. Jacques a 67 ans, il fait ses courses et il est un peu dépité de voir ça.
On aurait peut-être dû réfléchir un peu avant de fermer tout et de dire après « Ah, on aurait dû penser que peut-être les petits commerçants seraient en conflit avec les gros ». Ça n'a pas de sens parce que de toute façon les gens les iront sur internet. Ça va changer quoi? Rien. Ça va pénaliser un peu tout le monde mais ça ne va pas résoudre le problème.
Catherine n'est pas plus convaincue par cette mesure. Elle observe les yeux écarquillés, les bâches sur les rayons bloqués.
Là par exemple je suis étonnée que les jouets soient ouverts et pas les livres. Je trouve que ça handicape beaucoup les personnes âgées. À ce moment-là, comment vont-ils faire? Ils n'ont pas tous Internet. Je préférais que le gouvernement réouvre tous les petits magasins.
Désormais, les grandes surfaces doivent aussi respecter une jauge. Elle permet de réserver à chaque client une surface de 4 mètres carrés.
Deux hommes et une femme doivent être présentés à la justice aujourd'hui dans le cadre de l'affaire Samuel Paty, ce professeur assassiné pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Au moins l'un d'entre eux, âgé de 18 ans, est soupçonné d'avoir échangé des messages avec le terroriste. Il pourrait donc être mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Et plus léger pour finir, des sorties musicales très attendues ce vendredi. Le cinquième opus de Ben Mazué, Paradis, est disponible sur toutes les plateformes, ainsi que celui du rappeur, cinéaste et écrivain Gaël Faye. Son nouvel album, Lundi Méchant, propose notamment un texte poignant signé Christiane Taubira.
Merci Mathilde. Vous écoutez Microcité. Dans un instant, focus sur le confinement en France. Comment s'est passée cette première semaine pour les Français, les familles, les commerçants? On y répond dans quelques minutes. Karma Caméléon de Culture Club, vous êtes toujours à l'écoute de Microcité, une émission spéciale, on le rappelle, confinement oblige, nous enregistrons à distance et à l'avance, un jour avant cette diffusion. Depuis une semaine maintenant, la France est soumise au reconfinement. Pour autant, la situation n'est pas tout à fait la même qu'au printemps. L'équipe de Microcité vous a tendu son micro.
Nous sommes en guerre.
Le dossier confiné de la semaine.
Fais pas chier, je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Le retour du confinement signe le retour du télétravail. Premier concerné, les étudiants et leurs enseignants. Après les tâtonnements de printemps, les cours à distance semblent aujourd'hui mieux organisés. Lucille Bess.
Cours par visioconférence, rendu informatisé, contrôle à distance. Depuis lundi, enseignants et étudiants sont de retour devant leurs ordinateurs. Un flashback en mars dernier, pas vraiment, nous explique Damien, étudiant en licence d'histoire à Brest.
Là, c'est beaucoup mieux. On a eu directement des messages des profs pour nous prévenir comment ça allait se passer. Et ça a l'air d'être une meilleure organisation qu'avant.
Les étudiants semblent avoir appris de ce premier confinement, notamment en termes d'organisation. C'est le cas d'Adèle en deuxième année de licence humanité.
J'essaye de garder un peu les horaires de mes cours. De me lever, pas à la même heure, puisque bon, j'ai pas besoin d'y aller, tout ça, mais de conserver les horaires où j'avais cours, pour moi, travailler les cours qu'on a eu avant, pendant le semestre, et les exposés et tout ça.
Mais malgré plusieurs mois d'enseignement à distance, un problème persiste, celui des outils techniques.
Ce matin, j'aurais dû avoir cours, et 20 minutes avant, la plateforme a bugué, laissez tomber, sera plus tard.
Si lors du premier confinement, les enseignants avaient été amenés à utiliser de manière un peu impromptue des outils comme Zoom ou Discord, certains, comme Anne Sago, se tournent désormais vers des plateformes dédiées à l'activité pédagogique.
Actuellement, nous sommes en train de mettre en place de nouveaux outils via Moodle, plus favorables à l'échange avec les étudiants.
Chacun y met du sien pour faire de ce second confinement une période aussi productive que possible, tout en espérant, bien entendu, rouvrir les salles de classe d'ici décembre prochain.
Si la situation est claire pour les facs qui sont fermés ou même pour les supermarchés qui restent ouverts, elle l'est moins pour les auto-écoles où la colère monte. Mathilde Cariou.
Pas de cours de conduite autorisés, mais des examens maintenus. C'est la situation à laquelle font face les auto-écoles depuis le début de semaine. Une décision jugée incompréhensible par Roland Guichou, directeur de l'auto-école C'est Permis dans le Finistère.
Pour nous, c'est une grosse aberration. De pouvoir aller au permis sans préparer un élève, c'est comme si on demandait à un élève de passer le bac sans le préparer au bac. C'est exactement la même chose.
Ces permis présentent environ 18 candidats par mois à l'examen du permis de conduire. Alors que le premier confinement a déjà bien retardé les sessions du printemps, Roland s'inquiète pour ses élèves.
Moi, je pense surtout aux élèves qui en ont grandement besoin pour faire des stages, pour travailler. Ça peut être un handicap.
En effet, les élèves ont peur de prendre du retard, de perdre l'habitude, mais aussi de devoir de nouveau payer des heures de conduite à la sortie du confinement. C'est le cas d'Adrien qui vient de rater son permis pour la première fois.
Le fait de ne plus rouler pendant 1, 2, voire 3 mois, ça va certainement m'obliger à prendre plus d'heures. Et donc, sachant qu'une heure de conduite, c'est 44 euros. 44 fois 10, ça fait déjà 440 euros. C'est quand même pas donné à tout le monde.
Pour pallier ce problème, le gouvernement a mis en place des outils pédagogiques en ligne, notamment une chaîne YouTube intitulée « L'auto-école à la maison ». Mais l'initiative ne convainc pas du tout les moniteurs qui soulignent que la conduite, ça s'apprend dans une voiture et pas sur Internet.
L'économie est en grande difficulté avec le confinement. Les petites et moyennes entreprises sont les premières touchées. Elles auraient accumulé 50 milliards d'euros de pertes avec des professions qui voient leurs revenus tomber à zéro. C'est le cas des tatoueurs, par exemple, pour qui drive et livraison n'existent pas. Morgane est tatoueuse à Nancy. Pour elle, ce reconfinement est pire que le premier.
On s'est sorti du premier, mais là, le deuxième, clairement, je me suis dit, on s'en sortira pas, quoi. Qu'on n'a pas travaillé, ben, on le récupérera jamais. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment travaillé entre les deux pour pouvoir assurer l'accumulation de charges, de loyers, de cotisations qui tombent toujours aujourd'hui alors qu'on ne peut plus travailler du tout. Quoi. Donc je rentre zéro, mais il va falloir que je sorte de l'argent, je ne sais pas comment.
Un témoignage de Morgane qui est tatoueuse à Nancy. Une forte baisse d'activité également pour les restaurateurs, même si certains s'appuient sur la vente à emporter pour limiter leurs casses. À Grenoble, Corentin Bémol est allé à leur rencontre.
Donc je viens d'acheter un plat végétarien et un poulet.
Cette cliente du restaurant chez nous est venue récupérer un repas pour sa fille et elle. Celle-ci l'affirme, venir au restaurant durant cette période est aussi bien un plaisir qu'une marque de soutien.
Il faut faire vivre les commerces du quartier. Moi, je suis du quartier, donc je n'achète que dans le quartier.
En cette période difficile, les restaurants n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Ceci passe au tout à emporter. Une question de survie pour Axel Mellet, gérant du restaurant L'Instant T.
On doit juste faire en sorte de sauver notre activité, sauver le restaurant. Donc on se doit d'être là et répondre et être là pour les clients malgré tout.
Frédéric Chénian est chef dans un restaurant spécialisé dans les repas à emporter. Lors du premier confinement, c'était 80% de son chiffre d'affaires qui partait en fumée. Aujourd'hui, moins de pertes, mais autant d'incertitudes.
Maintenant, on perd 30 à 40%. Mais après, voilà, on va voir dans le temps, quoi. Mais ouais, c'est différent. On sent que c'est un peu moins violent que le premier confinement. Mais malgré tout, on sent quand même une différence, quoi.
Certains établissements réussissent néanmoins à rester optimistes. Au restaurant chez nous a été mis en place le click and collect. À 15h, tous les plats préparés étaient vendus.
Bon, nous, on a une clientèle qui nous suit. Donc, on continue quand même à travailler pas mal en portée. Donc, on croise les doigts pour que ça dure.
Enfin, d'autres restaurants passent par des plateformes comme Deliveroo. Les restaurants s'organisent tant bien que mal.
48-51, je vous les amène, ça arrive.
Un reportage de Corentin Bémol. Dans ce contexte, certains font preuve d'imagination. Les fleuristes ont fermé, mais l'Oumomège, vous en avez trouvé un qui vend quand même ses plantes chez le boulanger.
Les orchidées au milieu des viennoiseries. C'est bien une boulangerie que tient Charlène, mais face à la détresse de son voisin fleuriste, elle a accepté de l'aider à sa manière.
On considère qu'en tant que commerçant, on doit s'entraider. Donc il nous a demandé si on pouvait l'aider pour poser les plantes et pour éviter qu'il gaspille et qu'il jette sa marchandise. Donc pour nous, c'était tout à fait normal.
Cette boulangère grenobloise qui, elle, peut continuer son activité, propose donc aussi des plantes, celles qui ont pu être sauvées, faciles à entretenir. Et une boulangerie fleurie, ça interpelle les clients.
J'adore les plantes, qu'elles soient n'importe où. Les pauvres, ils ne peuvent plus vendre leurs fleurs. Alors s'ils peuvent se rendre service, ils n'ont pas d'inconvénient.
Ce petit coup de pouce, c'est déjà pas mal pour Eric, le fleuriste d'à côté. Chez lui, c'est la jungle, les pots de fleurs s'entassent sur les chariots en métal. On peut à peine entrer, car depuis lundi, Eric a dû fermer boutique.
Le peu qu'on a pu sauver, on l'a mis à côté. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine ou une vingtaine. Ce qui coûte un peu plus cher, on a bradé.
Car au-delà des pertes économiques, le problème dans l'immédiat, les fleurs de la Toussaint qui lui restent sur les bras.
On a vendu les pomponnettes, mais il reste toutes les coupes et tout ce qui est extérieur. Hein. Fait quelques commandes pour livrer, pour éviter la perte.
Des commandes internet qui restent de maigres revenus. Depuis le début de la crise, en mars, 15% des fleuristes ont dû fermer. Comme ses confrères, Eric craint les conséquences du reconfinement et pour limiter les pertes, il espère pouvoir rouvrir d'ici une quinzaine de jours.
Un reportage de l'Oumomège à Grenoble. Avec le confinement, beaucoup dénoncent la restriction de nos libertés. Shannon Marini en discute avec une professeure en droit public.
Bonjour Annabelle Pena, vous êtes professeure de droit public et ex-magistrate. Vous avez récemment publié un article intitulé « La liberté individuelle face à la Covid-19 » dans Petites Affiches, qui est une revue spécialisée en droit. Donc on l'a vu d'un jour à l'autre, le gouvernement, il peut instaurer un couvre-feu, un confinement. La première question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que finalement nos libertés fondamentales, elles sont assez protégées ?
Alors, c'est une excellente question. C'est même une question qui intéresse aujourd'hui tous les constitutionnalistes. Dans la situation actuelle, qui est quand même une situation extraordinaire, qui a été validée par une déclaration d'état d'urgence sanitaire, il est clair que les libertés individuelles ne sont pas protégées de la même manière qu'elles le seraient dans une situation tout à fait normale. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que c'est lorsque tout va mal qu'on a besoin que nos libertés individuelles soient au mieux protégées. Pour autant, la réalité est qu'aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir assurer un degré de protection de nos libertés équivalent à celui qu'on pourrait espérer dans des périodes aussi difficiles. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes dans une situation qui ne permet pas forcément de pouvoir mettre en œuvre toutes les garanties, notamment d'accès aux juges, dont nous aurions besoin aujourd'hui. Pendant cette période d'état d'urgence, on assiste à une justice qui est comme les voitures. Une justice de stop and go. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'est d'avoir une grande réflexion, peut-être même une révision de la Constitution, pour mettre en place des mécanismes qui soient adaptés à ce genre de situation qui finalement s'avère totalement nouvelle. Donc nous sommes là dans un décalage entre la réalité et le droit. Et le droit est à la traîne.
Pour vous, quels sont les risques pour les libertés individuelles de rester en permanence dans cet état d'urgence ?
Vous savez, cette situation-là, elle est compliquée et on ne peut pas avoir une vision manichéenne des choses en considérant que c'est forcément une régression pour nos libertés. Nous avons aujourd'hui un impératif qui est celui d'assurer la sécurité et la santé des personnes. Et ça, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui se greffe aussi une pression terroriste qui est extraordinaire. Et donc, nous avons un État qui est asphyxié sous une pression qui est à la fois sécuritaire et sanitaire. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la liberté, elle n'est pas absolue. Il y a des limites. Et les limites, elles peuvent être posé par un besoin de sécurité pour les biens et les personnes, que ce soit contre des actes de terrorisme, mais que ce soit aujourd'hui, et on l'a appris, contre un virus qui s'appelle la COVID-19. Et tant que ces limites à nos libertés sont encadrées par la loi et par un vote du Parlement, nous restons dans un système démocratique.
C'était Annabelle Pena, professeure en droit public. Continuer à rendre visite à ses proches en EHPAD, pas si simple que ça avec le Covid-19. Dans l'établissement des Grillons à Aix-les-Bains, plus de la moitié des 90 résidents ont été contaminés. Un reportage de Colline Mollard.
Porte des chambres fermées, couloirs et salles à manger vides. Peu de contact avec l'extérieur pour les résidents du centre pour personnes âgées dépendantes. Les visites se font au compte-gouttes et sur demande, comme l'explique Jean-Pierre Chazeran, président du centre intercommunal d'action sociale en charge de l'organisation de l'EHPAD.
L'EHPAD n'est pas ouverte. Les familles ou les aidants téléphonent et on organise la visite de manière extrêmement contrôlée en termes de gestes barrières, de distance.
50 résidents ont été testés positifs et 5 en sont décédés, de quoi inquiéter Eric Place. Sa mère, 86 ans, vit à l'EHPAD des Grillons depuis 4 ans.
Si maman a le Covid, à mon avis, ça va se passer très 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 mal. Une personne qui est avec des gros problèmes pulmonaires, en insuffisance cardiaque. Là, j'ai été appelé en urgence par le directeur. Il faut absolument que j'aille la voir pour aller lui remonter un petit peu le moral. C'est terrible de rester dans une chambre de 14 mètres carrés toute la journée.
La plupart de leurs contacts se fait avec les soignants qui, pour une vingtaine d'entre eux, ont également contracté le virus.
Vous avez toujours la tête qui tourne.
Pour Salomé Versolato, aide-soignante, le confinement a des répercussions morales, mais aussi physiques sur les résidents.
Vu qu'ils sont confinés, ils doivent rester dans les chambres. Ils sont beaucoup moins autonomes, ils restent plus solides. Ils sont moins levés alors qu'ils avaient l'habitude de descendre en bas dans la salle à manger.
L'EHPAD restera confiné au moins 2 semaines encore, mais les procédures de visite seront réétudiées dans les jours à venir.
Le confinement peut être encore plus compliqué à gérer pour les personnes isolées. C'est là qu'intervient l'association SOS Amitié. Elle propose une assistance téléphonique jour et nuit partout en France. Et pour Marie-Pierre Givlet, la présidente de l'antenne à Annecy, force est de constater que c'est indispensable.
Le téléphone sonne toujours. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous raccrochez, il sonne aussitôt. Ce que je crains, c'est des souffrances psychiques qui s'aggravent parce que les gens sont très angoissés, très stressés. Comme ils m'expliquent, ils ne peuvent pas avoir des rendez-vous comme ils le veulent avec leurs psychologues qui sont surbookés. Donc ils ont rien. Sinon, à nous appeler. Ce qui est assez récurrent, c'est les problèmes financiers, des situations précaires qui s'aggravent. Ce que je crains aussi, c'est les états de crise suicidaires. Ça, je pense qu'il va y en avoir plus. On essaye d'échanger avec eux, de faire en sorte qu'ils se trouvent un peu déstressés, qu'ils essayent de trouver une petite solution. Comme je dis toujours, on est leur petit rayon de soleil. On essaye de leur amener une ouverture d'esprit.
Des propos recueillis par Colline Mollard. Entre isolement, incertitude et privation de liberté, il y a de quoi être chamboulé. Pour revenir sur les effets que la crise sanitaire peut avoir sur nous, Alizée Cheboub, vous êtes avec une psychologue clinicienne.
Bonjour Nathalie Souliépin, donc vous êtes psychologue clinicienne. Et tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Donc en ce moment, on est en période assez complexe, donc de deuxième confinement. Est-ce que ce sont des périodes où vous avez, vous, peut-être de nouveaux patients qui n'avaient jamais consulté auparavant ?
Pour l'instant, je constate pas que ce sont dans ces périodes de confinement où les gens vont prendre rendez-vous. Par contre, à l'issue de ces périodes-là, il y a eu un gros rebond, juste au moment où les gens ont été déconfinés en mai, comme si finalement la période de confinement avait fait émerger certaines choses. Et dès qu'ils ont pu, du coup, se permettre à nouveau de sortir et de s'inscrire dans un suivi, là, effectivement, moi, j'ai vraiment connu un rebond à ce moment-là, comme si ça leur avait permis de se dire, OK, là, je vais peut-être prendre le temps, en fait, de m'interroger sur ma santé mentale.
Est-ce que vous avez vu un peu des changements, notamment par rapport au confinement précédent, et là depuis quelques jours, depuis qu'on est reconfiné, depuis les annonces ?
Il n'y a plus l'effet en fait de sidération qu'on a pu observer en mars, et en même temps il y a beaucoup plus de lassitude. C'est comme si en fait les gens s'étaient déjà un petit peu habitués à ça, alors que finalement ce n'est que le deuxième confinement, et pourtant ça réactive en fait tout ce qu'ils ont pu ressentir en termes d'angoisse au printemps. Donc je dirais qu'on part déjà avec un niveau d'anxiété qui est déjà plus élevé par rapport à celui qu'on a pu connaître au printemps.
Justement, cette anxiété, elle se traduit comment ? Est-ce qu'il y a des types d'addictions, ce genre de choses ?
Alors ça, c'est certain. D'une manière générale, tout ce qui est trouble, que ce soit trouble anxieux, trouble dépressif, addiction, c'est certain que ça va être augmenté, aggravé par la situation de confinement. Ça ne veut pas dire qu'il y a heureusement un fatalisme là-dedans et qu'on est tous amenés à devenir anxieux, dépressifs et addicts, mais s'il y avait déjà un terrain propice à ça avant le confinement, c'est certain que cette situation va avoir tendance à l'augmenter par l'angoisse qui est générée, par le fait qu'on n'a peut-être plus aussi autant de liens sociaux qu'avant, donc ça va être quand même aussi plus propice à certaines conduites addictives. Oui, c'est certain. Par contre, il y a quand même beaucoup plus de gens qui travaillent aujourd'hui qu'au printemps où voilà, il y a quand même plus de chômage partiel à ce moment-là. Là, finalement, les gens, même s'ils sont confinés et qu'au niveau vie sociale, c'est limité, il y a quand même ce lien avec le travail qui persiste. Et du coup, enfin, c'est plutôt de bon augure. Au niveau de l'organisation des journées, il y a moins cette sensation de vide, tout simplement, et d'espace, du coup, à combler, parce que, de fait, il est déjà comblé par les tâches à accomplir, en fait, au niveau professionnel.
Il y a plusieurs personnes qui se plaignent de privation de liberté. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort, peut-être ?
Oui, c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Avoir le sentiment en fait d'être dépossédé à un moment donné de son emploi du temps, justement de la manière dont on gère son temps, dont on gère ses déplacements. Oui, il y a cette sensation de privation, de punition. Ce que j'entends beaucoup, c'est comme si les gens avaient l'impression d'être punis de quelque chose en fait. Il y avait beaucoup de solidarité au printemps. Là, on peut craindre que les gens se montent un petit peu plus les uns contre les autres. Moi, je constate en tout cas qu'il y a plus de colère en fait. Il y a vraiment plus de colère cette fois-ci.
Justement, est-ce que vous avez des choses peut-être pour faire baisser cette agressivité ?
Pour lutter contre ce sentiment de privation de liberté, moi je conseille beaucoup la réappropriation de son temps et de son espace. Par exemple, pour ceux qui travaillent à la maison, c'est important de les délimiter dans la mesure du possible. Vraiment, voilà, d'avoir le sentiment d'avoir une maîtrise en fait sur son espace. Et au niveau de son temps, ben, c'est la même chose. Essayez vraiment de continuer à s'organiser, à la fois à faire ce qu'il faut faire au niveau professionnel, mais aussi à s'aménager des temps pour soi, des temps de détente, des temps de plaisir, tout ça pour avoir le sentiment d'avoir toujours une main sur la manière dont on gère son temps, son espace et plus largement du coup sa vie.
La psychologue Nathalie Souliépin au micro d'Alizée Cheboub. Et si on voyageait un peu pour finir cette émission, direction les Landes, à 600 km de Grenoble, où le surf est presque une religion. Les surfeurs n'ont en principe toujours pas le droit de pratiquer leur activité, mais beaucoup d'entre eux ne comprennent pas cette mesure et bravent l'interdit. Un reportage de Lucille Bess. Dans son petit appartement en face de l'océan, Clément, 28 ans, enfile une drôle de tenue, sa combinaison en néoprène et par-dessus un jogging et un pull. Il tente ainsi de conduire incognito jusqu'à la plage sud de Hossegor où les conditions sont les meilleures. Et une fois sorti de la voiture...
J'enlève mon jogging, j'enlève mon pull et je garde ma combi et je cours à l'eau.
Ce passionné de surf a complètement revu son discours et son attitude par rapport au premier confinement.
Premier confinement, j'avais pas surfé. Je prenais peut-être ça plus à cœur. Maintenant, je ne vois vraiment absolument pas l'argument qui est de ne pas aller surfer. Il y a aucun risque.
Et il n'est pas le seul à penser comme ça. Ce jour-là, à la plage sud de Hossegor, une vingtaine de personnes sont en train de surfer. Arnaud, 24 ans, sort de l'eau d'un pas tranquille après sa session.
Les plages étaient fermées. Maintenant, les plages sont ouvertes. Donc malgré tout, on a accès aux plages, on a accès à tous les lieux pour pratiquer. On a juste plus le droit de pratiquer. Après, moi, je suis dans le kilomètre de chez moi. Donc c'est mon heure d'activité sportive. Je considère que je fais pas plus de mal que quelqu'un d'autre.
Clément sort à son tour de l'eau. Il est accompagné par son ami Xavier, qui a déjà élaboré une stratégie s'il venait à croiser la route des gendarmes, sa planche sous le bras.
Je cours. Je m'en vais pour pas prendre d'amende.
Justement, à peine 2 minutes plus tard, les deux amis tombent nez à nez avec 3 gendarmes venus cueillir les surfeurs téméraires devant l'accès plage. Finalement, personne n'a pris ses jambes à son cou, les échanges ont même été cordiaux et les deux compères n'ont pas été verbalisés.
Apparemment, là, jusqu'à la décision de la préfète, pas d'amende. Là, pour le moment, tant qu'on n'a pas plus d'informations, je pense que je continuerai à surfer. Ouais.
Les surfeurs de la commune d'Hossegor peuvent en tout cas compter sur la mairie pour plaider leur cause. Édouard Dupouy est adjoint au maire.
Alors, le maire, en l'occurrence, a l'intention de mener des discussions à la fois avec la préfecture, mais en lien avec le syndicat mixte de gestion des baignades landaises, pour qu'il y ait une pratique
à la fois pour les écoles et pour les professionnels de surf qui habitent sur notre commune, mais à la fois pour tout simplement l'ensemble des résidents, pour qu'ils puissent pratiquer comme bon leur semble leur activité, dans la mesure où ça respecte les consignes sanitaires et les gestes barrières.
Malgré les négociations entreprises par la mairie, Édouard Dupuy n'est pas très optimiste. Les surfeurs pro pourront aller à l'eau, mais pour les amateurs, il faudra probablement risquer tout le confinement une amende salée. Microcité touche déjà à sa fin. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On remercie également Nelly Asséna et Sébastien Chanoff pour leur précieuse aide. Rendez-vous vendredi prochain, même heure, sur Radio Campus Grenoble. Et d'ici là, portez-vous bien.